CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour tout le monde, c'est Mag aujourd'hui à propos de la réouverture de La Mounière, la maison des mémoires de Sept-Fonds. On fera le tour des visites guidées qui seront proposées et on vous suggérera le détour pour le vernissage de la nouvelle exposition Vie artistique au camp de Jude, les œuvres du GTE 302. Ce sera à 17h le 8 mai. Ce sera aussi pour la deuxième partie de ce Mag avant ça. Et pour maintenant, on vous parle momie.
CFM.
C'est ce vendredi 28 avril du côté de Saint-Antonin-Nobleval, une conférence sur les momies. Une conférence qui nous est proposée par la librairie Le Tracteur Savant, qui invite Patrice Georges Zimmermann, archéologue et anthropologue, à s'exprimer. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Vous êtes commissaire scientifique de l'exposition Momie, qui est visible actuellement au Muséum de Toulouse. Vous nous présenterez l'ouvrage édité en cette occasion. Vous répondrez à toutes les questions des personnes présentes à la salle des congrès à partir de 19h ce vendredi. Un petit avant-goût pour maintenant et une présentation. Alors ça va prendre un petit peu de temps, Patrice, vous êtes ingénieur chargé de recherche, archéo-anthropologue, responsable d'opérations archéologiques préventives à l'INRAP. Vous êtes membre du CNRS, membre de la cellule d'intervention sur les structures archéologiques profondes. Vous êtes impliqué dans les problématiques archéologie forensique, c'est-à-dire l'application des méthodes de l'archéologie dans les contextes criminels de recherche et de découverte de corps enfouis illégalement depuis des années. Vous intervenez régulièrement en tant qu'expert judiciaire près de la cour d'appel de Toulouse au profit de la gendarmerie nationale et vous êtes engagé dans un programme de formation et de recherche auprès de la fouille opérationnelle spécialisée du 17e régiment du génie parachutiste. Alors, je ne vous demanderai pas dans quel contexte les parachutistes se momifient. Je vais commencer par une toute première question. Les momies, est-ce que ça a nécessairement des bandelettes ?
Eh bien non, ça n'a pas nécessairement de bandelettes. En fait, momie, c'est un terme très large pour expliquer qu'un corps ne se décompose pas. Alors, soit il ne se décompose pas parce que l'homme a fait une préparation de telle façon qu'on arrête la putréfaction, ou soit il ne se décompose pas parce que des éléments naturels dans le désert ou dans un glacier fait que le corps ne va pas pourrir. Donc en fait, c'est une momie, il ne faut pas avoir forcément l'image en tête de la momie égyptienne, hein, puisque c'est forcément la première image qu'on a tous en tête, et il faut imaginer toute une diversité de cas qui touchent en fait tous les continents, à peu près toutes les époques, tout simplement parce qu'il y a des civilisations qui ont préparé des corps, et puis de toute façon, à toutes les époques, vous avez eu des accidents de la nature, si vous voulez, qui ont fait que certains corps, dans certaines conditions, ne se sont pas décomposés. Donc non, toutes les momies n'ont pas de tablette.
C'est ça la différence entre la momification et la naturalisation ?
Alors, la naturalisation, ça serait effectivement une action volontaire, systématiquement, et puis qui va un peu au-delà de la momification, puisque vous avez, un peu comme vous empaillez votre animal favori, vous avez parfois une action qui va bien au-delà en fait de ce qu'on ferait dans une momification, qui peut être carrément de retirer le squelette et d'en refaire un, alors que dans le cas de la momification, si vous voulez, on enlève des choses, alors on enlève ou pas, ça dépend, c'est un peu plus compliqué que ça, mais si vous voulez, on a une action qui est peut-être moins interventionniste et on joue plus avec les éléments de la nature, alors que dans la naturalisation, on va le faire dans un but scientifique et qui va être un peu plus que les gestes qui vont être portés dans un cadre funéraire. Donc il faut imaginer que les momies, alors si on enlève le côté naturel, hein, si vous voulez, l'accident de la nature, les momies, elles sont faites toujours dans un cadre funéraire, hein, c'est-à-dire qu'on rend hommage aux morts et qu'on imagine qu'il y a un au-delà où les morts vont se retrouver. Et donc c'est une action qui certes est interventionniste, mais pas trop quand même, on ne porte pas forcément atteinte de façon importante au corps.
Si on pense aux momies égyptiennes, hein, ce sont les plus connues. Hein. Alors donc rites funéraires anciens, oui, et puis surtout conservation du corps, désir universel d'éternité, c'est ça la momification.
Ben c'est ça, c'est-à-dire que en fait, la momie fait. On focalise sur la momie, mais il faut évidemment l'intégrer à un système de pensée qui est beaucoup plus large et qui généralement envisage une survie après la mort. Donc c'est-à-dire que il y a ce désir un peu d'éternité de faire passer les corps, du monde actuel au monde suivant, si vous voulez, dans une, on va dire dans un état qui est assez proche de celui qu'ils avaient lorsqu'ils étaient vivants.
Vous êtes un grand spécialiste de la momie, de la momification naturelle ou de l'intervention de l'homme sur un corps déjà mort. La plus vieille momie trouvée, comment s'appelle-t-elle ?
Alors là, je suis un peu sec. Moi, je m'intéresse aux momies historiques, mais il s'avère qu'il y a des débats où on a des momies qui peuvent remonter à des milliers d'années. Il y a aussi un peu une course, vous savez, les archéologues, ils aiment bien se glorifier de la, voilà, du cas le plus ancien. Donc je vous avoue que je vais dire une bêtise si je vous donne une date et un lieu. Comme je vous l'ai dit, là, en fait, c'est hyper dur d'être... Alors c'est gentil de dire que je suis spécialiste des momies, de la momification, mais c'est un peu compliqué puisqu'en fait ça touche toutes les cultures et puis toutes les périodes de la préhistoire, on va dire relativement récente, puisque par exemple quand vous parliez de l'Égypte tout à l'heure, ben, vous aviez des momies naturelles en Égypte bien avant que vous ayez des corps préparés, et puis vous en avez en Amérique du Sud, et puis vous en avez dans tous les contextes où vous avez en fait le froid qui a conservé les corps, par exemple, et vous n'avez surtout pas que des momies humaines, donc vous pouvez avoir, vous voyez, un mammouth en Sibérie, c'est une momie aussi.
Alors donc, ça voilà, être ma question, oui. Et l'insecte prisonnier dans l'ambre,
c'est une momie aussi. Alors là, vous voyez, c'est pour ça, c'est pour ça que, vous voyez, moi, je focalisais déjà que sur je pensais juste au contexte funéraire, mais si on parle évidemment de l'insecte prisonnier dans l'ambre, ben là, on va être sur des temps géologiques, bien au-delà de la préhistoire, donc bien avant que l'homme n'apparaisse sur Terre dans certaines conditions. Ah. Donc, voilà, je serais incapable de vous répondre sur ça. Il faudrait que je regarde, d'ailleurs, ça serait marrant, parce que je pense qu'on va me poser la question. Il faut que je me prépare.
Alors, ce sont des momies, mais elles n'ont pas été momifiées. Alors, ces mammouths ou ces insectes. La momification, ça implique un rite d'enlever les organes, de les remplacer par des solutions miracles, et puis de mettre des bandelettes. Là, j'exagère complètement, mais...
Non, ça, vous n'exagérez pas. Ça, c'est une partie de la momification qui serait celle qui serait voulue par l'homme, donc qui serait un embaumement. C'est-à-dire que l'homme va porter son action sur un corps et il va s'arranger pour que ce corps ne pourrisse pas trop vite ou voire pas du tout, sachant que quelle que soit l'action de l'homme, pour revenir encore à la momification égyptienne ou à l'embaumement égyptien, on le survalorise sans doute un tout petit peu, parce que ce qui joue énormément dans ces cas-là, c'est en fait les conditions environnementales. C'est-à-dire que si demain, moi, à Montauban, je faisais une momie égyptienne, ça marcherait quelques temps, vous pourriez la voir, mais elle passerait pas les siècles, comme le font les momies en Égypte, tout simplement parce que les conditions, vous voyez, aujourd'hui il pleut, et tout ça, c'est pas forcément très bon pour la conservation des corps. En Égypte, évidemment, les gestes portés sur le corps, donc déjà chirurgicaux, hein, on a enlevé les viscères, on a fait toute une préparation des corps, c'est excellent pour la conservation, mais surtout ce qui les a aidés, c'est qu'ils ont un climat sec et aride dans le désert, et c'est ça en fait qui a permis au corps d'arriver jusqu'à nous intact ou prêt, à un tel point que toutes les conditions en Égypte ne sont pas forcément réunies, et moi... Je le montrerai pendant la conférence. Moi, j'ai travaillé sur des momies, mais qui se sont dégradées au cours du temps et que les gens n'ont pas perçu comme des momies au premier abord, puisque maintenant, elles sont en état d'os. Si vous voulez, même une momie égyptienne en Égypte, et quand les conditions ne sont pas réunies, elle ne se conserve pas intégralement. Donc, quand vous parlez de l'ambre ou du mammouth, c'est des cas de momification, mais c'est ce qu'on appelle la momification naturelle. Donc c'est ce que j'appelle l'accident de la nature. Normalement, on est fait pour mourir, se décomposer, parce que quand on se décompose, il y a tout un cycle qui rentre en action. Hein. Vous avez des animaux qui viennent pondre, d'autres animaux qui viennent se nourrir des larves qui vont être pondues, etc. Donc c'est un micro-milieu qui se crée, mais tout d'un coup, parce que les conditions sont telles, soit très sec, soit on coupe l'oxygène, soit très froid, on arrive à une momie, qui est une momie naturelle. Donc il ne faut pas forcément voir la momification comme étant une volonté de l'homme, mais parfois aussi une action de la nature, sans que l'homme le recherche forcément. Alors parfois il la recherche, les deux peuvent être liés, hein. Il peut mettre aussi des corps dans des endroits où il sait que les corps ne vont pas trop se décomposer, et puis des fois c'est complètement accidentel, c'est complètement lié au hasard.
Accident de la nature ou bien intervention de l'homme pour la momification des corps, dans tous les cas, un régal pour les scientifiques comme vous.
Ben évidemment, parce que c'est un voyage à remonter le temps. Hein. C'est forcément, vous avez un instantané de ce qui s'est passé il y a des centaines, des milliers d'années, sachant que, voilà, comme je vous dis, c'est la momie, c'est un peu le cadavre qu'on peut voir, et c'est le cadavre bah, qui, dont les parties molles, les chairs, tous les traits du visage, tout ça, ne disparaissent pas, qu'on peut voir. Et évidemment, tout ce qui ne disparaît pas contient des informations qu'on peut exploiter en laboratoire. Alors, je dis on, c'est pas moi, mais dans les laboratoires voilà, qui travaillent sur ces questions-là, ben oui, forcément, quand vous avez un squelette, vous n'avez plus que les os. Quand vous avez une momie, vous avez des cheveux, vous avez de la peau. Vous avez surtout des informations sur les vêtements. Voilà, ou les tissus, hein, des choses qui disparaissent habituellement en archéologie, ben, tout ça, vous pouvez l'exploiter après à des fins scientifiques. Donc oui, c'est un régal. Alors ça, c'est bizarre de dire ça. On se réjouit de choses un peu étranges. Mais évidemment, oui, c'est vraiment très intéressant pour les scientifiques. Voilà.
Vous avez dit une machine à remonter le temps, mais le corps momifié s'arrête instantanément.
Oui, c'est ça. Oui, alors peut-être que le terme, il est pas bon. Ça serait comme un polaroïd, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui fige le temps. Et puis nous, c'est une machine à remonter le temps dans la mesure où, ben voilà, on a quelque chose qui arrive qu'il y a 2000 ans et qui est, alors on dit intact, c'est jamais complètement intact, hein, parce que vous avez quand même des choses qui changent, qui se modifient, etc. Mais vous avez, par exemple, dans le cas de momies qui sont trouvées dans les climats secs, ben vous avez quand même quelque chose qui s'est arrêté et qui nous arrive tel qu'il a été laissé par les derniers. Les dernières personnes qui l'ont vu. Donc c'est dans ce sens-là où ça ressemble un peu à une machine à remonter le temps.
Une fois momifié, donc par un accident de la nature, encore une fois, ou par l'intervention de l'homme, le corps ne bouge plus, à part, donc pardon, s'il y a des intempéries, le taux d'humidité, etc. Le corps, après, est figé. On pense souvent aux ongles, aux cheveux.
Ouais, alors ça c'est la légende en fait, ça ne pousse pas après la mort, hein. C'est juste que les peaux, il y a une rétractation en fait de la peau qui donne l'impression que les cheveux et les ongles continuent à pousser. Mais évidemment tout ça c'est figé, c'est-à-dire que bah, une fois que la mort est arrivée, vous n'avez absolument plus une action de croissance sur n'importe quelle partie de votre corps, hein. Tout est arrêté. Si l'embaumement est bien fait, le corps ne bouge pas trop, mais c'est quand même assez compliqué. Je vous l'ai dit, vous l'avez compris vous-même, hein, c'est que les conditions environnementales, eh ben, elles jouent énormément. Et donc c'est très très rare. À part le meilleur moyen, c'est la congélation, si vous voulez. Donc c'est la meilleure momie, on va dire naturelle, qui pourrait arriver, hein. D'ailleurs c'est pour ça que on met dans les laboratoires de médecine légale, etc., on réfrigérait les corps, mais on peut pas dans les cas d'embaumement historique, on va dire, le corps il se modifie quand même au cours du temps, si vous voulez, la peau se rétracte, il y a pas, vous voyez, on voit les visages des momies anciennes, mais c'est évidemment pas aussi net que le visage d'un mort de quelques jours, si vous voulez. Donc il y a forcément une évolution, et surtout si les conditions environnementales sont pas propices, alors là ça va continuer à évoluer. Ouais.
Et le processus d'embaumement est le même à travers les âges, à travers les lieux. Vous parliez des momies mexicaines, égyptiennes, c'est toujours les mêmes procédés pour la momification.
Alors, c'est pas toujours les mêmes procédés. Il y a des, il y a des règles de base en fonction de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous voulez être sûr qu'un corps ne se décompose pas trop ou pas trop vite, vous devez retirer les viscères, vous devez faire des actions sur l'extérieur du corps. Mais comme je vous l'ai dit, comme c'est lié, la modification, elle est liée un peu à des pensées religieuses et à des fois à des systèmes de pensée très complexes, hein, qui nous échappent en partie, eh bien, vous avez des actions qui vont être complètement différentes. C'est-à-dire que vous avez des choix techniques qui vont être faits pour faire les momies, mais qui ne sont pas forcément les choix techniques les plus évidents, les plus faciles, mais qui correspondent à un système de pensée qu'on ne maîtrise pas forcément à chaque fois. Et on voit que on a des gestes un peu différents en fonction des sociétés ou même des périodes. Il y a des évolutions au sein de la même société, mais au cours du temps. Et donc on n'a pas forcément tout à fait les mêmes recettes. C'est-à-dire que un Égyptien va pas forcément, ne va pas embaumer de la même façon qu'un Sud-Américain ou que on faisait l'embaumement nous en Europe au Moyen-Âge, par exemple. Ça va être complètement différent.
Des momies artificielles, témoins donc de rites funéraires anciens ou des momies naturellement formées dans des contextes environnement particuliers. On saura tout sur les momies grâce à votre intervention, Patrice Georges Zimmermann, dans le cadre de votre venue à Saint-Antonin-Noble-Val sur une invitation de la librairie Le Tracteur Savant. Ce sera ce vendredi à 19h à la salle des congrès. Je rappelle que vous êtes archéologue et anthropologue et que vous êtes le commissaire scientifique de l'exposition Momie, visible actuellement au Muséum de Toulouse. Vous nous présenterez l'ouvrage édité en cette occasion. Vous répondrez à toutes les questions. Et pour la dernière, c'est qui votre momie préférée, Patrice ?
Ça, vous me prenez de court. J'ai pas de momie préférée. Si j'aime bien les. Alors, je vais vous décevoir parce que je vais pas pouvoir vous donner un nom, mais j'aime bien les momies d'animaux. En Égypte, on momifiait les hommes, mais on momifiait aussi les animaux. Et il y a plein de momies animales qui sont assez, assez touchantes et qui sont surtout plus rares, je trouve, que les momies humaines sur lesquelles tout le monde porte leur attention. Voilà, donc j'ai pas de nom à vous donner, mais plutôt un animal en tête. Là, j'ai des momies de chat qui me plaisent bien.
Patrice Georges Zimmermann, un grand merci à ce vendredi alors.
Eh bien, avec plaisir, à vendredi.
Looking like a born again, living like a heretic, listening to Arthur Lee records, making all your friends feel so guilty about their cynicism, and the rest of their generation, not even the government, are gonna stop you now, but are you ready to be heartbroken? Are you ready to be heartbroken? Pumped up full of vitamins, unaccountable of seriousness. You say you're so happy now, you can hardly stand or lean over on the bookcase. If you really want to get straight, read Norman Mailer or get a new tailor. Are you ready to be heartbroken? Are you ready to be heartbroken? Are you ready to bleed? What would it take, what would it take to wipe that smile off of your face? Are you ready to be, are you ready to bleed? To be heartbroken. Are you ready to bleed? Heartbroken. Well, you better get ready now, baby. Ready to bleed.
Ready to bleed.
Ready to bleed.
CFM Kélus. Le MAG.
On s'y prend un petit peu en avance dans le MAG aujourd'hui pour vous inviter à l'inauguration de l'exposition Vie artistique au camp de Jude, les œuvres du GTE 300. C'est organisé par La Mounière, la maison des mémoires de Sept Fonds. La responsable animatrice est avec nous, Margot Nicole. Bonjour Margot.
Bonjour Lisa.
C'est quoi le GTE 300?
Alors c'est 302. Le GTE 302. C'est en fait au camp de durant la période d'existence du camp de Jude, il y a eu plusieurs périodes dans le camp et sous Vichy, le camp a aussi été un camp de travailleurs étrangers qui étaient regroupés dans des groupements de travailleurs étrangers qui avaient différents numéros et nombres. Certains étaient composés d'Espagnols, d'autres étaient composés d'autres nationalités et le régime de Vichy a regroupé dans le groupement de travailleurs étrangers 302 les membres de ces groupements de travailleurs qui étaient considérés comme non-ariens, donc juifs, et lui a même donné le nom de GTE palestinien.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans cette exposition ?
En fait, cette exposition va être le reflet ou une fenêtre ouverte sur la vie artistique et culturelle au sein de ce groupement de travailleurs étrangers. Et on a la chance d'avoir un collectionneur sur cette fond qui a dans sa collection des dessins et des caricatures réalisées au sein du camp de cette fond par membres du GTE 302. Et ce, avant pour certains d'être déportés, puisqu'en 1942, des déportations vont être organisées depuis le camp de cette fond via Drancy vers Auschwitz. Et ces membres, ces hommes du GTE 302, 84 d'entre eux, vont être directement touchés par ces déportations qui vont avoir lieu à la fin de l'été 1942. Donc certains de ces hommes qui ont œuvré à la vie intellectuelle et artistique du camp sur cette période-là, certains vont être déportés et on a très peu de témoignages de la vie culturelle à l'intérieur du camp. Donc ces dessins, ces caricatures nous sont très précieux.
Inauguration de cette exposition donc le 8 mai dans la cour de la Mounière, la maison des mémoires de cette fond. Une exposition qui sera à voir jusqu'au 17 septembre donc. Vie artistique au camp de Jude, les œuvres du GTE 302, c'est le cœur de l'existence de la Maison des Mémoires de cette fond.
Oui, tout à fait. Et alors cette exposition, en fait cet été, on a la particularité d'accueillir deux expositions et sur trois temps différents. Donc en fait l'exposition Vie artistique au camp de Jude, elle va être visible du 3 mai au 17 juin et à nouveau du 16 août au 17 septembre. On fait une coupure entre les deux pour présenter une autre exposition sur les femmes mémoires de cette fond.
Un thème que vous avez porté tout au long de cette année, même voire de l'année dernière.
Exactement. Donc on aura sur la période du 21 juin au 13 août une exposition de dessins, enfin de panneaux réalisés avec des illustrations et des textes qui sont issus d'un travail qu'on a réalisé sur toute l'année 2022 et qui dépasse un peu aussi sur 2023 autour de portraits de femmes mémoires de cette fond avec l'illustratrice Alma Kayser. Et donc on avait réalisé des petits teasers vidéo de chacun de ces épisodes, de chaque épisode autour d'une femme mémoire. Et là on va voir donc les panneaux présentés, les dessins préparatoires aussi d'Alma et une visite guidée qui accompagnera un peu la découverte de ces femmes mémoires dans le village de cette fond.
Les visites guidées, on va en parler, oui, les visites guidées de la Mounière. La Mounière, donc la maison des mémoires de cette fond, qui traite au quotidien de trois sujets, donc autour du fameux camp de Jude, de la vie de Petronille Cantecor, une des pionnières du chapeau, originaire de cette fond, et de Dieudonné Coste, donc le premier avec son mécanicien à avoir traversé l'Atlantique sans escale, en avion. Donc, la Mounière, visite guidée, parlons-en, Margot.
Donc des visites guidées, cette année on teste, alors chaque année on teste de nouveaux formats de visites guidées. On ne peut pas prédire à l'avance quelle sera la météo de l'été prochain, mais on s'est dit que ça pouvait être sympa d'organiser des visites guidées plutôt en soirée. Donc en fait on a pris le parti pour le mois de juillet et le mois même pour entre mai et septembre. Chaque mercredi à 18h30, on organise une visite guidée. Donc c'est sur réservation pour qu'on sache à l'avance s'il y a des personnes inscrites ou pas. Et comme on a la chance d'accueillir donc deux très belles expositions cette année et qu'elles dureront également de la période de mai à septembre, donc chaque mercredi à 18h30, on aura une visite guidée autour de l'exposition du moment.
La Mounière réouvre ses portes là à partir de ce 3 mai, l'inauguration de l'exposition autour des œuvres réalisées au camp de Jude par le GTE 302, donc sera inaugurée le 8 mai on peut passer vous voir comme ça. Il faut taper à la porte de la Mounière et vous êtes là.
Et la porte est ouverte. C'est-à-dire que de là, sur la période, quand on réouvre entre mai et septembre, on a vraiment des périodes où la porte est ouverte et où vous pouvez venir découvrir sans réservation. En mai et juin, on est ouvert les mercredis et samedi, de 14h30 à 18h30, c'est sans réservation. Il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir et vous guider dans les mémoires de la Mounière et autour de l'exposition du moment aussi.
Vous êtes situé rue des Déportés, à Sept-Fonds, donc. On peut retrouver beaucoup d'informations sur le www.sept-fonds-la-mounière.com. Et on vous retrouve là-bas. Margot-Nicole, merci beaucoup.
Merci et à bientôt.
Et merci à tous de nous avoir suivis. Pour ce mag rediffusé à 18h ainsi qu'à 21h, écoutable à loisir sans modération, podcast sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr. Là, c'est les infos.